franceinter.fr. La revue presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia et bonjour à tous. Il n'est pas inutile de revenir parfois sur la racine des mots. Et c'est ce que fait judicieusement Étienne de Montetti dans les colonnes du Figaro qui ce matin s'intéresse à une actualité sportive, en l'occurrence l'ouverture du tournoi des Six Nations. Avec le match France-Italie au stade Saint-Denis tout à l'heure, cet après-midi, tournoi qui vient du Moyen-Âge et désignait à l'origine un combat entre chevaliers. Dans un tel combat, les adversaires tournoient, et au rugby aussi, les joueurs décrivent de nobles arabesques, et le ballon, bien que Paron, tourne également. Du reste, le tournoi a aussi donné la torgnole, gifle qui fait tourner la tête, sachant que pour l'édition qui s'ouvre aujourd'hui, le public attend évidemment que le vent cesse de tournoyer, mais aussi qu'il tourne carrément, et avec lui le 15 de France, car il existe de nombreuses façons de tourner à plein régime ou bien à vide, et le nouveau sélectionneur a promis une nouvelle tournure pour ce tournoi. Pour ce faire, le dit sélectionneur Guy Noves a décidé de miser sur une nouvelle génération pour tenter de faire oublier le traumatisme d'un mondial catastrophique. Les Bleus doivent rallumer la flamme, analyse ce matin Sud-Ouest. Tandis que le Parisien s'interroge, les Bleus peuvent-ils rallumer la flamme? Devoir et pouvoir, ce n'est pas la même chose. Qu'importe, semble dire l'équipe qui lance à sa une, jouer maintenant. Tandis que la Dépêche du Midi écrit que si Noves n'a a priori rien d'une fée, on lui reconnaît cependant un profil de sorcier et le quotidien de souhaiter aux sorciers toulousains un destin national, un sorcier qui explique l'importance dans le monde, l'importance du maillot tricolore pour lui. Les joueurs du 15 de France doivent se sentir comme des élus, des représentants de la nation, dit-il. Alors, que donneront donc à voir nos représentants de la nation en rugby? Rendez-vous cet après-midi. Et on espère franchement qu'ils ne s'inspireront pas des élus de la nation qui étaient à l'Assemblée hier, parce que là, on ne peut pas dire que ça ait vraiment bien tourné.
Oui, c'était l'ouverture du débat sur le projet de révision de la Constitution, un projet présenté par le Premier ministre.
Et un projet qui continue de diviser à droite comme à gauche, en premier lieu pour son article relatif à la déchéance de nationalité, de vives passes d'armes dans un hémicycle clairsemé, et vive réplique de Manuel Valls suite au réquisitoire de la verte Cécile Duflot, qui n'a pas manqué de souligner qu'une telle mesure inutile est dangereuse, lui rappeler l'époque de Vichy ce matin dans la presse. Tous les éditorialistes fustigent un débat confus et très mal engagé, débat à ce point enlisé que la seule porte de sortie semble être aujourd'hui l'enterrement, note Mathieu Verrier dans La Voix du Nord. Alors qu'il voulait rassembler, François Hollande s'est pris les pieds dans les ficelles politiciennes, relève pour sa part Raymond Courreau dans l'Alsace, qui compare le texte à une espèce d'ornithorynque juridique. Même point de vue pour Denis Sifer dans Politis, lequel souligne qu'au départ, le chef de l'État espérait, avec ce projet, réussir à piéger la droite. Au-delà même du symbole, il s'agissait ainsi de calculs politiques, mais aujourd'hui, le piège s'est refermé sur le stratège. Quant à l'algarade entre Valls et Duflot, elle fait remonter à la surface les mauvaises odeurs de la politique, s'emporte pour sa part Yann Marek dans le Midi Libre. Cette fois, écrit-il, on touche le fond de la piscine et ce n'est qu'un début, à quoi j'ajoute que ce débat semble surtout tourner en rond.
Et pendant ce temps-là, OFN se tient un séminaire à huis clos portant notamment sur les prochaines échéances électorales.
Le FN qui cherche son discours économique, résume le Figaro, tandis que Le Monde nous explique qu'il est toujours en panne de crédibilité. Certes, il a obtenu un score historique lors des dernières régionales, 6 800 000 voix, mais il n'a emporté aucune région et selon le baromètre annuel de TNS Sofres, le parti d'extrême droite marque le pas. Et ce malgré la popularité d'une partie de ses idées, 56% des personnes interrogées jugent ainsi qu'il est un danger pour la démocratie. Un chiffre en hausse de 9 points sur 3 ans. Quant à Marine Le Pen, elle ne semble toujours pas en mesure de rassembler au-delà de son propre camp, près de la moitié des sondés. Estime du reste qu'il n'adhère ni aux constats qu'elle exprime, ni aux solutions qu'elle propose. Et seuls 28% disent voir en elle une femme honnête et qui inspire confiance pour les tournois futurs. La chef du Front National a donc prévu de travailler désormais sur son image. Comme le détaille Tugdual Denis dans l'Express, travailler sur son tempérament pour paraître moins agressif. Pourquoi pas faire appel aussi au service d'une styliste en mesure de lui choisir des tenues qui l'adoucissent, séduire et sourire davantage afin de coller au slogan qu'elle a choisi pour sa future campagne. La France apaisée, un slogan que l'on a entendu dans la bouche de François Hollande, relève le Huffington Post, c'était en octobre. Et à plusieurs reprises, le chef de l'État a parlé d'une société, d'une démocratie apaisée, volonté d'apaisement, qu'il avait d'ailleurs déjà martelé au début de son quinquennat. Du reste, du côté du Parti des Républicains, cette référence n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Cette semaine, au détour d'un discours consacré au monde rural, c'est Nicolas Sarkozy qui se l'est approprié à son tour, qui s'est approprié ce mot tant convoité. Tout le monde promet donc l'apaisement, comme les baumes contre les piqûres, des baumes qui apaisent contre les piqûres de moustiques, ou bien aussi comme les tisanes qui apaisent avant de dormir. Peut-être est-ce dès lors une façon de nous endormir, je ne sais pas, ou de nous passer de la pommade. Il n'est pas inutile de revenir parfois sur la racine des mots.
Oui, l'apaisement, c'est aussi ce que tente de trouver Grégory Edenberg, le patron de la Belle Équipe, café où 20 personnes sont mortes dans l'une des fusillades du 13 novembre à Paris.
Et malgré les attentats, malgré le deuil, malgré le traumatisme, les bars et les restaurants touchés rouvrent peu à peu dans le 11e arrondissement à Paris. Une difficile reconstruction pour le patron de la Belle Équipe qui a perdu tout à la fois ses amis et la femme qu'il aimait. La mère de sa fille, lire son portrait dans M, le magazine du Monde. Poignant et magnifique portrait, signé Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Attention, fragile, ne pas le secouer, trop de larmes à l'intérieur. Ça peut gicler à tout moment, sans prévenir. D'ailleurs, il ne cherche même plus à masquer ses sanglots. Quand ça vient, ça vient. Grégory Rebenberg a 46 ans. Il n'est pas bien grand, mais toujours en mouvement. Un vibrillon, il a des phrases plein la bouche, des flots de mots et de souvenirs qu'il déballe. Parfois, il les couche sur le papier pour exorciser, pour ne pas oublier, tenir le coup avec en point de mire une obsession, rouvrir d'ici le printemps son café-restaurant, ravagé un sanglant soir de novembre et dont en ce début d'année il surveille de près la reconstruction, espérant sans doute y puiser les germes de sa propre renaissance. Il raconte Jamila, la femme qu'il aimait. Je l'ai prise dans mes bras, elle était inconsciente mais elle s'est réveillée, elle avait un énorme trou dans le dos, je l'ai conduite à la pharmacie, puis allongée sur une table du restaurant, le petit Bayona, juste derrière. À un moment, je lui ai lâché la main, elle a hurlé « Greg », puis elle est morte dans mes bras. Ses dernières paroles, je ne les oublierai jamais, « Prends soin de Tess, sois fort pour elle ». Je lui ai fermé les yeux, je lui ai demandé pardon, je lui ai dit « Tu es belle ». Il raconte ensuite l'annonce à Tess, 8 ans, qu'elle n'a plus sa maman. Ça se passe dans le salon de l'appartement familial. Maman a pris des projectiles dans le dos. Elle est morte, explique-t-il. Papa, c'est pas drôle, c'est méchant, crie Tess. Et puis il raconte la résurrection qu'il souhaite, la résurrection de son café. Tout refaire, dit-il, recréer un lieu de vie sur un lieu de mort, balle neuve, si j'ose dire. C'est ma façon de leur rendre hommage.
Les journaux se font eux aussi l'écho de plusieurs procès ce matin.
Le procès Cahuzac qui est censé s'ouvrir demain, c'est à la une de Libération, demain lundi, que dis-je. Le retour du boulet, titre Libé, qui nous explique toutefois que le procès pourrait être aussitôt renvoyé. Autre procès dans Le Parisien, celui qui fait écho à l'affaire de Jacqueline Sauvage, comme un acquittement. Bernadette Dimet, épouse persécutée, accusée de l'assassinat de son mari en 2012, a été condamnée hier à 5 ans de prison. Avec sursis, soulagée, elle a quitté libre la cour d'assises. À Nantes, 9 lycéens intoxiqués au McDo. Le sujet fait la une de Presse Océan. Non, le McDo ne donne pas la pêche. Des migraines et des vomissements, l'établissement a dû fermer par arrêté préfectoral. À 3, une octogénaire meurt dans la salle d'attente des urgences de l'hôpital. Le sujet fait la une de Libération Champagne et de l'Est Éclair. Selon l'hôpital, il n'y a pas eu de défaut de traitement, mais l'hôpital refuse de dire combien de temps cette femme de 85 ans a patienté dans ses locaux avant de succomber sans avoir été reçue par un médecin. Enfin, un petit tour du côté de la presse féminine. Un petit tour. Grand dossier dans Biba. Psycho, conso, shopping. Comment s'organiser pour moins speeder? 40 idées pour gagner du temps. J'ai tout lu, j'ai perdu 10 minutes. Et puis dossier dans Femme Actuelle. Plus jamais fatigué. Des plantes et des recettes pour retrouver son énergie. 38 conseils anti-fatigue. J'ai tout lu et ça m'a crevé.
Mais vous n'avez pas une idée sur les régimes? Non, vous n'avez rien lu sur les régimes?
La semaine prochaine, Patricia.
Perdre 10 kilos en une semaine?
En une demi-heure.
À demain, Frédéric Pommier.